Et bienvenue à Time Ride. Je suis votre assistante numérique T3RO pour votre voyage dans le temps. Je vais vous accompagner dans votre mission pour apprendre du passé. Pour cela, je vais vous envoyer faire un voyage unique dans le temps. Pour être plus précise, dans le Berlin divisé de 1985. Là où nous allons, nous aurons besoin de route, car vous allez prendre le bus pour un aller-retour dans le Berlin-Est des années 80. Vous allez apprendre comment c'était de vivre dans une ville divisée et sous dictature communiste. Vous allez pouvoir absorber l'ambiance et les émotions de l'époque et les remporter avec vous jusqu'au présent. Votre voyage dans le temps est sur le point de commencer, mais vous n'allez pas vous asseoir tout de suite, ce serait trop dangereux. Vous ne devez vous rendre dans le Berlin-Est des années 80 qu'une fois bien informé et en bonne compagnie. C'est pourquoi mon rôle n'est pas seulement de vous transporter dans le temps, mais aussi de vous y préparer. Pour cela, je vais d'abord vous envoyer au mur. Vous allez ressentir dans votre propre corps la séparation par le mur antifasciste, tout en regardant des images originales de la vie à Berlin-Est et à Berlin-Ouest. Vous aurez ainsi une première impression des deux mondes différents qui existaient à l'époque des deux côtés du mur. Ensuite, je vais vous présenter trois témoins de l'époque. Ils vont vous raconter leur vie personnelle et vous partager leur destin dans le Berlin divisé. Soyez attentifs, car vous ne voyagerez pas seul à Berlin-Est. Chacun d'entre vous sera accompagné par l'un des témoins. À vous de choisir lequel des trois. Après avoir pris votre décision, vous prendrez place à bord du bus touristique. Mettez vos lunettes de voyage dans le temps. Le voyage à travers Berlin-Est en 1985 peut commencer. Protocole d'initiation terminé. Début de la procédure de voyage dans le temps. Un instant, s'il vous plaît. Chargement. 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 Données complétées. Coordonnées calibrées. Performance constante à 1,21 GW. Ouverture du portail spatio-temporel, c'est parti! Le portail spatio-temporel est ouvert. Données de mesure stable. Chers voyageurs dans le temps, veuillez franchir cette porte vers le passé. Votre voyage dans le temps commence maintenant. Salle de contrôle. Salle de contrôle. Salle de contrôle. Excellent. Tout le monde est bien arrivé au mur. Tout comme le mur vous sépare maintenant, il a séparé les habitants de Berlin-Est et de Berlin-Ouest les uns des autres. Avec deux systèmes politiques hostiles l'un à l'autre, la vie quotidienne de part et d'autre du mur pouvait difficilement être plus différente. Solidarité mais oppression à l'Est, liberté mais extravagance à l'Ouest. Mais il y avait aussi des similitudes. La rébellion contre les conditions dominantes. Et la curiosité pour la vie de l'autre côté du mur. Que faisaient les gens à Berlin-Est et à l'ouest de la ville? Jetons un coup d'œil derrière le mur à l'aide de la dernière technologie VHS. Faites tourner la pellicule.
La vie à Berlin-Est, capitale de la RDA. La vitrine du socialisme allemand représente une promesse majeure, une société où la solidarité prime tout, du travail pour tous, un espace de vie pour tous. Proche du peuple, c'est ainsi que les dirigeants du Parti communiste est-allemand aiment se voir. Son rôle ? Créer la prochaine génération de socialistes. Les jeunes sont appelés à rejoindre la jeunesse allemande libre. Être chemise bleue, c'est devoir prêter allégeance au socialisme, mais aussi faire beaucoup de sport et impressionner ses camarades. On travaille dans des Volkswagenbetriebe, des entreprises nationalisées qui fournissent un revenu, un logement pour les vacances et une garde d'enfants. À Berlin-Est, la plate ou préfabriquée est le summum de l'habitat familial. C'est l'État qui l'attribue. Le week-end, chacun se rend dans sa datcha de campagne où l'on fait ce qu'on veut, le socialisme faisant une pause. Le Palais de la République, le bâtiment phare de Berlin-Est, surnommé Magasin de lampes d'Erich, du prénom du dirigeant est-allemand Erich Honecker, un édifice avec des bars, une piste de bowling et une salle de bal. La Chambre du Peuple, le Parlement de la RDA, siège ici. Mais c'est de plus en plus clair, le projet socialiste est impossible à financer. Il y a pénurie de tout. Un Berlinois de l'Est doit attendre 12 ans pour un trabicar et jusqu'à la chute du mur pour un téléphone. De nombreuses étagères sont vides. Avoir besoin de quelque chose, c'est devoir faire du troc. C'est la désillusion. L'appareil de sécurité de l'État, la Stasi, espionne tous ceux qui osent penser différemment. Parfois, les ennemis de l'État sont arrêtés dans la rue. Surnommé « Écoute et regarde », l'État espionne les appartements privés et documente tout dans les moindres détails. Beaucoup de gens en ont assez. Certains jeunes refusent le service militaire et doivent faire du travail d'intérêt général. Ils peuvent dire adieu à leur carrière. Les obstructeurs de conscience peuvent même se retrouver derrière les barreaux. Les gens commencent à montrer leur mécontentement et à manifester dans les églises et dans la rue. Les punks de Berlin-Est sont aussi une épine dans l'œil de l'État. Généralement clandestins, ils jouent rarement en public, comme ici. Mais même la surveillance et la répression ne peuvent maintenir la RDA en vie un certain temps. Ce pays en ébullition cessera bientôt d'exister. Coloré. Bruyant. Différente. La vie à Berlin-Ouest. Une île au milieu de l'Allemagne de l'Est, encerclée par un mur. Les lignes de transport en commun mènent au bastion de la démocratie, comme les politiciens aiment à le dire. Mieux vaut ne pas être remarqué par les gardes-frontières, où la foule sera minutieuse. L'avenue Kudamm est une vitrine de l'Ouest. Cette artère commerçante capitaliste a de quoi satisfaire tout le monde. Un verre dans un kiosque ou un bon restaurant pour retraités aisés. Berlin-Ouest se veut un bastion de la culture et des arts. On y croise les stars de la Berlinale et des acteurs comme le célèbre Bernard Minetti. La ville est également connue pour ses clubs. Ils attirent des milliers de noctambules. Et les créateurs de mode qui veulent se démarquer du chic parisien. Le gouvernement ouest-allemand injecte beaucoup d'argent dans la ville pour garder Berlin en vie. Dans des quartiers comme Kreuzberg, les façades s'effritent, de nombreux appartements sont vides, les gens s'y installent tout simplement et quand on veut expulser les squatteurs, ils résistent. Résistance aussi à l'ordre moral d'hier. À Berlin-Ouest, gays et lesbiennes jouissent de la liberté sexuelle. Une ville en état d'urgence. Personne ne doit faire son service militaire. Il n'y a pas d'heure de fermeture. Le club SO36 à Kreuzberg devient un lieu de rencontre légendaire pour les anarchistes et les punks. Et ceux qui ont leur propre style. Ceci n'existe pas dans la soi-disant Allemagne de l'Ouest. Des Berlinois de l'Ouest franchissent le mur au point de passage Friedrichstrasse, sous étroite surveillance. Ils ont besoin de papiers spécifiques, d'une carte d'identité provisoire. À l'Est, leurs proches attendent généralement leur venue et leurs cadeaux dans leur bagage à main. ». 1982. À l'annonce d'un visiteur de haut rang, les tensions dans la ville atteignent leur paroxysme. Le président américain Ronald Reagan vient exprimer sa solidarité et défier l'Est. Berlin restera Berlin. Mais la course aux armements de la guerre froide ne fait pas l'unanimité. On manifeste. Certains groupes ont recours à la violence. Malgré, voire à cause de cela, pour les habitants d'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, Berlin-Ouest est un lieu de rêve et de désir. L'appel à la liberté pour tous résonne dans tout Berlin.
Liberté pour tous. Quelle promesse en cette période tendue des années 80 à Berlin? À votre avis, quels étaient les destins des individus de ce côté et de l'autre du mur? Passez à l'étape suivante et faites connaissance avec nos témoins de l'époque. Tant de documents et de cartes d'identité, et derrière chacun d'entre eux des expériences personnelles, des aventures et des histoires vécues. Prenez place et écoutez bien. Trois de ces personnes vont maintenant se présenter à vous. À la fin, vous décidez, chacun individuellement, qui vous voulez accompagner dans la promenade en réalité virtuelle à travers Berlin-Est.
Je m'appelle Harry Lideke. Je suis né en 1952 à Berlin. Profession, chauffeur routier et carreleur. Aujourd'hui, je suis à la retraite. Résident à Berlin-Est, Prenzlauer Berg. Religion, aucune. Mon père est mort jeune, probablement à cause d'un traumatisme de guerre. Ma mère ne parlait presque jamais de lui. Elle travaillait à l'usine d'ampoules électriques Rosa Luxembourg. Elle était bien payée, tout allait bien. Moi, j'étais membre des jeunes pionniers. Ma mère m'y envoyait. Je n'ai pas rejoint les pionniers de Thälmann ou la jeunesse allemande libre. Les uniformes, c'était pas vraiment mon truc. Les choses ont empiré quand j'étais appelé sous les drapeaux. Je ne voulais pas rejoindre les troupes. J'ai travaillé dans le bâtiment. Là, ils nous ont donné du fil à retordre. On creusait, on trimballait des trucs et on n'avait presque jamais de temps libre. Et puis, je suis devenu carreleur. C'était pas facile d'être accepté à cause de ma jeunesse rebelle. Mais j'avais des relations et l'une d'elles s'est occupée de moi, si vous voyez ce que je veux dire. Puis j'ai rencontré ma merveilleuse épouse Bertha. Et puis, on a eu notre fille Daniela. En tant que carreleur, les choses se sont vite améliorées. J'ai pu me procurer des matériaux que je pouvais échanger contre d'autres choses, des choses qui étaient difficiles à trouver, pour ainsi dire. Entre carreleurs, on se les partageait d'une manière socialiste. Puis la révolution pacifique est arrivée. On était là, en première ligne, au poste frontière de la Bornholmerstraße. On criait « Ouvrez les portes! Ouvrez les portes !» Et ils les ont vraiment ouvertes. Alors on a fait une promenade dans Berlin-Ouest, et puis on est rentré à l'Est. Eh oui, le vieux Berlin-Est, c'est ma maison après tout. Venez avec moi, je vais vous montrer.
Je m'appelle Elke Makowski, née Bischoff. Je vis toujours dans ma ville natale, Berlin. Je suis architecte indépendante. Je suis née en 1961, exactement deux semaines avant que le mur soit érigé en une nuit à travers la ville. C'est un sentiment étrange que de savoir que ma vie est reliée à ce mur depuis le tout début. Nous le connaissions comme le rempart de la protection antifasciste qui nous séparait de l'Ouest. En tant qu'enfant, on ne s'est jamais demandé si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Pourquoi on se serait dit ça ? J'ai eu une enfance heureuse et protégée. On jouait souvent dans la rue, mes parents étaient de fervents partisans du parti. J'étais une jeune pionnière, puis une pionnière Thälmann, ensuite dans la jeunesse allemande libre. On chantait, on bricolait et on dansait beaucoup ensemble. On était toujours entre amis. Après la EOS, l'équivalent du lycée, j'ai pu étudier la matière que je souhaitais, l'architecture. En tant qu'étudiante en architecture, Berlin, c'était le rêve. Il y avait plus de constructions qu'aujourd'hui. J'étais déterminée à apporter ma pierre à l'édifice de la République. Dans les années 80, on a envoyé des ouvriers de toutes les régions de la RDA à Berlin pour aider à faire briller la capitale à l'occasion des célébrations du 750e anniversaire. C'est aussi à cette époque que j'ai rencontré mon mari. Nous nous sommes mariés et peu après, nous avons eu notre fils Robin. C'était normal d'avoir un enfant à 20 ans. C'était facile d'avoir un appartement. Il y avait beaucoup de place en maternelle. En fait, tout se passait bien. En fait. Mais plus tard, j'ai découvert le côté sombre du système, dans les détails. D'abord, ils s'en sont pris à mon mari, j'ai failli le perdre et j'ai dû quitter mon travail. À ce moment-là, je me suis dit, il faut que ça change. Maintenant, je vais vous montrer mon Berlin d'avant cette période agitée, avant que nous, citoyens de la RDA, ne sachions quel bouleversement nous attendait.
Hi. Bonjour, je m'appelle Michael Hartmann, profession photographe, conservateur et, même si cela ne se voit plus, un punk dans l'âme. Je suis né en 1962 à Recklinghausen. J'ai déménagé à Berlin, Kreuzberg, après le lycée. Ouais, c'est mon son de Berlin-Ouest, sauvage, bizarre et juste anti-tout. Berlin m'a sauvé. La Ruhr me rendait fou avec ses petites structures bourgeoises. Berlin-Ouest était la terre promise. Rien que les légendes de la musique. David Bowie et Iggy Pop vivant en colocation. Ma situation de vie était également extraordinaire. J'étais un squatter et un punk politique. On faisait tout dans l'excès. Musique, fêtes, drogue, lutte contre la police répressive dans les rues. L'atmosphère était explosive. Berlin-Est, c'était l'exact opposé. Un jour, un ami l'a appelé Disneyland pour les dépressifs. Je trouvais ça fascinant. Deux mondes séparés par un simple mur. Et toutes ces absurdités, comme les panneaux anti-publicité. Un restaurant avait un panneau disant « pas de nourriture chaude ». Il fallait que je photographie ce genre de choses. Au milieu des années 80, ma relation avec Berlin-Est est devenue très intense. J'ai rencontré ma future femme, Julia. Nous avons organisé des concerts illégaux ensemble. Le problème, son père était membre du SED. Jusque-là, tout ça n'était qu'un jeu, mais je me suis rendu compte que pour les Allemands de l'Est, c'était la dure réalité. Donc, j'ai rejoint les manifestations à Berlin-Est pour lutter pour la liberté et pour être ensemble avec Julia. Si vous voyagez dans le temps avec moi, je vous montrerai le Berlin divisé à travers les yeux d'un frontalier non conformiste qui s'intéresse tout particulièrement à l'étrange et à l'insolite.
Alors, avez-vous déjà un préféré? Rappelez-vous, il ne peut y en avoir qu'un. Mais avant de prendre votre décision, je vais vous expliquer notre parcours. Sur la carte, vous voyez le Berlin de 1985, y compris la bande mortelle entre l'Est et l'Ouest. Nous partons de la partie ouest de Berlin, de la Friedrichstraße, et nous allons nous diriger directement vers le Checkpoint Charlie. Ce qui est aujourd'hui un point névralgique pour les touristes était à l'époque un poste frontière avec des officiers armés. Alors, restez sur vos gardes. Après le contrôle, nous allons trouver des trams sans grand intérêt. Mais tout autour se trouvent des voitures en stationnement avec des hommes qui lisent suspicieusement des journaux. Bien sûr, tout est top secret. Non seulement le grand public, mais aussi les zones frontalières sont surveillées méticuleusement par la sécurité de l'État. Juste avant de passer la maison de la science et de la culture soviétique, nous devons changer de direction. Une célébration du régime de la RDA nous bloque le passage. Nous allons donc prendre un virage imprévu sur le Gendarmenmarkt, où se trouvent les cathédrales françaises et allemandes. Ici, les travaux de rénovation battent leur plein. Ensuite, nous allons rouler le long de la Leipziger Straße, une véritable route de prestige de la RDA, avec des magasins et des complexes d'habitations VBS 70 très modernes. Nous allons ensuite traverser la Fischerinsel et plonger dans le centre du pouvoir politique de la RDA. L'épitomée des bâtiments de représentation socialiste nous attend sur la Marx-Engels-Platz, le palais de la République. Un centre culturel pour tous et le siège de la Volkskammer, la chambre du peuple. C'est ici que notre visite s'achève. Bien sûr, pas sans émotion. Vous avez le droit d'être curieux. Protocole d'introduction terminé. Je vous laisse maintenant aux soins de mes compagnons de voyage dans le temps. Ils vous conduiront au bus touristique pour débuter votre voyage dans le passé. Rendez-vous en 1985.